L'eau. Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir. On te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie. Tu es la vie. Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique point par les sens. Avec toi, rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce, s'ouvrent en nous toutes les sources taries de notre cœur. Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la plus délicate, toi si pure, au ventre de la terre. On peut mourir sur une source d'eau magnésienne. On peut mourir à deux pas d'un lac d'eau salée. On peut mourir malgré 2 litres de rosée qui retiennent en suspens quelques sels. Tu n'acceptes point de mélange, tu ne supportes point d'altération, tu es une ombrageuse divinité, mais tu répands en nous un bonheur infiniment simple. Comme cette eau pour la vie, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte. Mon collègue Marc Pernot étant en arrêt maladie, j'ai donc accepté la sollicitation qui m'a été faite de présider ce culte et de prêcher à cette occasion. Nous accueillons ce matin le Dieu qui est, qui était et qui vient, mais ce Dieu, c'est aussi celui qui déclare, que celui qui entende dise « viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive, gratuitement. Vous êtes venus, vous avez répondu à l'invitation, alors je vous invite à la prière. Prions. Ô notre Dieu, tu es l'hôte annoncé et nous t'attendons. Tu es celui qui doit venir. Alors laisse-nous te donner ce nom. Il est voilé, mais il est sans phare. Tu es l'hôte annoncé dont chaque jour nous attendons l'évidence. Tu es la joie que notre prière voudrait accueillir. Nous t'attendons. Tu es celui qui doit venir. En t'attendant, le temps est long. Il a fallu le meubler de nos œuvres et de notre agitation. Nous avons appris la solitude, le rire, la peine, la violence de ce monde déchu. Nous avons déchiffré les visages et les gestes de nos compagnons de routine. Nous avons construit des machines de rien. Nous nous sommes affairés à nos jeux d'enfants, nous nous sommes débrouillés, livrés à nous-mêmes, mais nous t'attendons. Tu es celui qui doit venir. Déjà, la nuit descend vers l'horizon. En nous, la paix descend d'au-delà des collines, comme une naissance nouvelle. Nous t'attendons. Tu es celui qui doit venir. Viens, Seigneur. Je vous invite à vous lever pour bénir l'Éternel. Oui, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Et nous poursuivons notre louange avec le psaume 34. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 au psaume 34. Un pharisien demande à Jésus, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. » Un second cependant lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors écoute. Quelqu'un t'appelle, il dit ton nom. Écoute, il t'invite à te redresser, à dire non à la fatalité, à la mort, à la bêtise, à la violence. Il veut faire de toi quelqu'un d'actif, un artisan de paix et de justice. Écoute, toi qui es là, ouvre ta porte à celui qui frappe. Ouvre ta porte à celui qui fait mine de passer. Fais-le entrer pour le partage, pour la joie, pour la fraternité. Écoute, il te dit de t'aimer, d'aimer les autres, d'aimer le monde et Dieu et la vie. Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Amen. Dieu notre Père, tu nous as fait le don de la vie et tu ne permettras pas que nous nous perdions. Tu connais nos peurs et nos angoisses, notre foi toute petite et notre fatigue. Tu connais aussi notre orgueil, nos préjugés, notre manque de courage lorsqu'il s'agit de donner la place à la justice ou de proclamer la vérité et de la défendre. Alors relève-nous, viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit et la clarté de ta sagesse. Prends pitié de nous. Dieu a vu son peuple esclave en Égypte. Il a vu un paralysé sur sa civière et Zachée dans son arbre. Il nous voit, prisonniers de bien des tabous et esclaves de bien des habitudes. Il a conduit le peuple à travers la mer Rouge. Il a fait lever le paralysé. Il a touché le cœur de Zachée. Vers nous aussi, il vient. Il nous relève. Il nous affecte, il nous conduit nous aussi vers une vie nouvelle, qu'il nous mette au cœur l'assurance de son pardon et la joie de servir en sa présence. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera avec abondance. Jésus-Christ est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom, il les conduit dehors, il marche devant elles, et ses brebis le suivent. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, quand même il serait mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est le vrai cep et son Père est le vigneron. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. J'ai retenu pour ce culte, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 3 à 43, la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Alors Jésus quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce que l'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le psaume 42, nous prendrons les strophes 1, 8 et 9, le psaume 42. Je vous invite à vous lever. Seigneur, nous t'en prions, remplis toute notre prière de ta propre parole. Fais que ta parole grandisse en nous, de sorte que quand nous la prononçons, tu puisses trouver plaisir à l'entendre. Ne permets pas que cette parole nous laisse derrière elle. Fais au contraire qu'elle nous emmène avec elle. Permets que ta parole nous conduise parfaitement à toi, aussi près de toi qu'il répond à ta volonté de nous avoir près de toi. comme un certain nombre de pasteurs qui se réclament du protestantisme libéral, j'ai une prédilection pour l'évangile de Jean. Pour ma part, je suis séduit par son absolue simplicité qui s'exprime à travers l'utilisation de symboles universels qui nous parlent de Dieu et qui donnent à penser, selon l'expression bien connue. Des symboles, la lumière, l'eau, le souffle, ou encore, dans l'ordre de la culture, le pain, la vigne, le berger. Et tous ces symboles, ils trouvent leur plénitude de sens dans la personne de Jésus. Car bien évidemment, le quatrième évangile est un évangile christologique, comme disent les théologiens. Il s'adresse à des croyants pour les aider à répondre à une question simple et en même temps infiniment complexe. Qui est Jésus de Nazareth? Et le quatrième évangile développe une pédagogie de la foi destinée à nous faire découvrir et approfondir l'identité du maître de Nazareth. Jésus, d'ailleurs, est le personnage central du récit que je viens de lire, le seul, d'ailleurs, de tous les protagonistes qui soit présent du début jusqu'à la fin de la scène. Oui, qui est cet homme, ce vagabond qui passe sur le chemin et qui fait halte au bord d'un puits à l'heure méridienne? Eh bien, nous le découvrons peu à peu, au fil de l'entretien mené avec la femme, avec les disciples et avec les Samaritains. Nous sommes conduits par l'auteur d'étape en étape. Jésus est un juif, et il rappelle d'ailleurs que le salut vient des juifs. C'est un prophète. C'est aussi un messie ou le messie. Et c'est enfin, comme le proclament les Samaritains en conclusion, c'est le sauveur du monde. La progression d'une affirmation à l'autre est cohérente. Elle culmine dans une profession de foi qui met en valeur l'universalité du salut dont cet homme est le messager. D'une certaine manière, ma prédication pourrait s'arrêter là. Et nous pourrions repartir bardés d'une petite catéchèse sur l'être et sur l'action de Jésus-Christ. Le problème, car il y a toujours un problème, c'est que l'apparente simplicité de ce récit est en fait perturbée par une succession d'énigmes. Par exemple, « Va chercher ton mari et reviens ici. » Cet ordre donné à la Samaritaine par Jésus a de quoi surprendre. La femme vient d'accepter l'eau qui jaillit en vie éternelle. Alors pourquoi, en cet instant, en ce lieu, solliciter la présence d'un mari? Quel lien entre l'eau vive et ce monsieur? C'est un peu bizarre. D'autant que la suite du récit est jalonnée d'énigmes analogues. Pourquoi un débat sur la localisation du temple? Pourquoi, au retour des disciples, cette conversation sur la nourriture, sur les semailles et sur la moisson? Le texte est finalement moins lisse qu'il n'y paraît. Je pense que toutes ces digressions, en fait, fonctionnent comme des ressorts dramatiques qui relancent l'action et qui, au cours de la narration, nous permettent justement de mieux cerner l'identité de Jésus au-delà de ce qu'il peut y avoir de conventionnel, de convenu dans les titres de prophète, de messie, de sauveur qui lui sont attribués. Donc en dépassant la doctrine de la foi, il nous faut donc entrer dans le monde du texte avec ses péripéties et son intrigue pour tenter de cerner au plus près qui est Jésus de Nazareth. Oui, il faut, comme les disciples, nous mettre en route. Nous avons en effet affaire à un récit de voyage. Jésus et ses disciples vont de Judée en Galilée et ils sont obligés de traverser la Samarie, une terre sinon étrangère, du moins peuplée de malsentants de la foi, d'hérétiques, de gens qui en tout cas sont en conflit avec les Juifs. Et la petite bande de Jésus fait halte près d'un puits. Le maître est fatigué, c'est l'heure de la pause. Ce que je voudrais d'emblée mettre en exergue, c'est que dans la Bible, il y a plusieurs récits analogues à celui-ci. Dans l'Exode, par exemple, on nous raconte la fuite de Moïse au pays de Madian et sa rencontre avec les filles de Jéthro, importunées par des bergers indélicats alors qu'elles allaient abreuver leurs brebis. Au livre de la Genèse, on nous raconte encore la pérégrination d'Éliézer, le serviteur d'Abraham, chargé d'aller trouver une épouse pour Isaac, et c'est auprès du puits qu'il rencontre Rebecca. Au chapitre 29 de la Genèse, enfin, nous avons la rencontre de Jacob et de Rachel, auquel le récit de Jean fait directement allusion. On est près de Sichar, là même où se trouve le puits de Jacob. Et il se trouve que tous ces récits fonctionnent de la même manière. Un homme est en voyage, il s'arrête au bord du puits, une femme arrive, et bien sûr, la conversation s'engage. La rencontre entre Jésus et la Samaritaine, c'est donc un classique de la littérature biblique. Enfin, il y a quand même un détail troublant. Il est écrit que c'était environ la sixième heure, sexte, comme on dit encore dans le vocabulaire des moines. Il est midi, midi le juste. Le soleil est au zénith, la chaleur est accablante, et à cette heure-là, bien sûr, personne ne vient puiser de l'eau. On viendra à l'heure du soir et ce sera l'occasion pour les uns et les autres de se rencontrer et de parler. Alors si la Samaritaine vient à midi, c'est précisément parce qu'elle est sûre qu'elle ne rencontrera personne. Vous le savez, elle a une vie sentimentale un peu compliquée et certaines situations ne sont pas faciles à vivre lorsqu'on se sent jugé par les autres. Sans doute se sent-elle condamnée, peut-être même est-elle rejetée, exclue. En tout cas, elle est seule, seule, que cette solitude soit voulue ou subie. Alors elle vient au puits, à la sauvette, et voilà qu'elle tombe nez à nez sur un inconnu. Il se trouve que Jésus, lui aussi, est seul, puisque les disciples sont partis faire les courses. Et c'est Jésus qui engage la conversation en demandant de l'eau à la femme. C'est la même question que celle posée par Éliézer, le serviteur d'Abraham, à Rebecca. Demander de l'eau, c'est bien sûr demander un service en vue de la satisfaction d'un besoin aussi élémentaire que vital, mais c'est également une manière d'entrer en relation avec l'autre. C'est bien évidemment le moyen de percevoir les dispositions de la personne à qui l'on s'adresse. Et donner de l'eau à qui en demande signifie se montrer accueillant et prêt à aller un peu plus loin. Oui, la conversation, elle peut alors continuer et la relation peut se nouer. Or, à ce moment-là, coup de théâtre, la Samaritaine refuse l'eau à Jésus. Pour une simple raison, à savoir qu'une Samaritaine et un Juif n'ont rien à faire ensemble. les choses pourraient en rester là. Mais Jésus insiste et il renverse la situation. Il lui propose de l'eau vive. Oui, au lieu de l'eau du puits, il lui offre une source. Voilà. Pas de l'eau qu'on va chercher péniblement avec un récipient au bout d'une corde qu'il faut remonter à la force du bras, mais l'eau courante. Alors on comprend que cette femme soit intéressée par cette offre qui viendrait mettre fin à la corvée quotidienne. Et en cet instant, Jésus, en relançant l'entretien, agit comme Éliezer, comme Jacob, comme Moïse, qui en offrant de l'eau à une femme, initie un processus qui va tout naturellement conduire à un mariage. Car c'est toujours dans les récits bibliques le futur mari qui offre de l'eau. Jésus, bien évidemment, n'est pas le mari de cette femme. Et c'est bien pourquoi, à ce moment-là, Jésus lui demande d'aller chercher son mari. Et la femme répond très simplement qu'elle n'a pas de mari. Elle ne dit pas tout, elle ment par omission, elle a déjà eu 5 maris et le 6e n'est pas son mari. Dans le récit de l'entretien avec Nicodème, l'auteur du 4e évangile précise que Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ici, sans porter sur elle quelque jugement que ce soit, sans la condamner, Jésus met simplement le doigt sur ce qui ne va pas dans sa vie, là où ça fait mal. Alors la femme, elle se retrouve au pied du mur, et elle croit s'en sortir en détournant la conversation. D'abord, elle flatte Jésus en lui attribuant la qualité de prophète, et puis elle pose une question de catéchisme à cet interlocuteur mystérieux. Elle n'a peut-être pas beaucoup de morale, mais sur la religion, ça va. Elle lui pose une question précise. Quel est le véritable lieu de culte? Où faut-il adorer? À Jérusalem ou sur le Garizim? Où est le vrai Dieu? Et de nouveau, le texte nous propose un passage abrupt, très difficilement compréhensible. Pourquoi botter en touche de cette manière? Mais en fait, dans la tradition biblique, pour parler des relations entre Dieu et son peuple, les prophètes aiment employer la métaphore nuptiale. Dieu est comme un époux. Dieu souffre des infidélités de son peuple. Et des faux maris aux faux dieux, le pas est facile à franchir. Qui est le vrai mari de cette femme? Quel est le vrai Dieu de ce peuple? Quelle est la vraie religion? Quel est le véritable temple? Et s'il fallait adorer en esprit et en vérité, en recevant ce que propose Jésus, une eau vive, qui deviendra dans le cœur de tout homme une source jaillissante en vie éternelle. La question, elle reste en suspens, car à ce moment-là, une fois de plus, l'action rebondit. Les disciples arrivent, la femme abandonne sa cruche et part pour la ville. Son départ, ce départ précipité, il correspond dans les récits de l'Ancien Testament au moment où la future épouse court chez son père pour dire qu'elle a rencontré un homme auprès du puits. Ici, la Samaritaine va vers les gens de son village, elle qui jusqu'à présent allait au puits à midi afin d'éviter de les rencontrer. Pour éviter de s'entendre dire ce que Jésus lui a rappelé et que maintenant elle raconte à tous. Il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce qui veut dire que la Samaritaine a été changée, transformée par sa rencontre avec Jésus et son comportement en est la meilleure preuve. C'est une véritable conversion, mais l'Évangile n'en fait pas un récit spectaculaire. Oui, c'est une conversion parce que voilà que cette femme prend la parole en toute liberté. Elle est de surcroît réintégrée à la communauté. Alors, intrigués par la démarche de cette femme, les Samaritains, à leur tour, viennent voir Jésus afin de mettre leur foi en lui à cause, nous dit l'Évangile, de la parole de cette femme qui rendait témoignage. J'aimerais encore attirer votre attention sur un détail. entre-temps, oui, entre le départ de la femme et l'arrivée des Samaritains, Jésus parle avec ses disciples. Ceux-ci sont allés au ravitaillement. Et bien sûr, on se met à parler, à leur retour, de victuailles. Tout à l'heure, la Samaritaine parlait à Jésus d'eau, et Jésus lui répondait en évoquant une source pour la vie, en plénitude. Maintenant, les disciples, attentionnés, exhortent le maître pour qu'il mange et qu'il reprenne des forces, et lui leur parle de sa nourriture, qui est de faire la volonté du Père. Et Jésus poursuit par les semailles et les moissons, autant de symboles de fécondité et de vie. Oui, en parlant de semailles et de moissons, Jésus évoque sa propre mission, ce pourquoi il a été envoyé. Encore 4 mois et ce sera la moisson. Et oui, parce que là-bas, en Palestine, l'écart normal entre les semailles et la moisson, c'était 4 mois. On moissonnait en avril, mais avril d'ailleurs est encore appelé dans la Bible « mois des épis ». Et 4 mois plus tôt, c'est décembre et les semailles viennent d'être terminées. Alors de quelle moisson parle Jésus en s'adressant ainsi à ses disciples? Il s'agit bien sûr des Samaritains qui viennent lui demander s'il est le Messie. Oui, ces hommes, ils représentent cette terre de Samarie, infidèle au Dieu vivant et vrai, mais qui, grâce à Jésus, va retrouver son véritable époux et par là même sa fécondité. Levez les yeux, regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Et les Samaritains, dans le récit, désormais, ils supplantent la femme qui disparaît, et en finale, ce sont eux qui tiennent le rôle principal. Ils prennent le relais parce qu'en fait, ils viennent jouer le rôle dévolu à la future épouse dans les récits de rencontres auprès du puits. Ce sont eux, les Samaritains, et non la femme qui invite Jésus à demeurer chez eux. Et ce qui clôture l'histoire, ce n'est pas une fête de noces, c'est une confession de foi. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Chers amis, vous voyez donc qu'on peut lire cette histoire à plusieurs niveaux. L'histoire d'une femme qui naît à une vie nouvelle, celle d'un peuple qui revient à son Dieu, celle de l'humanité appelée à découvrir les profondeurs insoupçonnées d'un salut qui s'étend désormais de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais à chacun de ces nouveaux, c'est encore et toujours la personnalité de Jésus qu'il convient de scruter. Et j'aimerais mettre en lumière 2 points. L'un qui touche à la nuptialité et l'autre à ce que, dans le vocabulaire de la théologie classique, on appelle la révélation. La nuptialité, tout d'abord. Il est évident que ce récit déploie une thématique nuptiale très forte. Il est construit sur le modèle de la rencontre auprès du puits entre un homme et une femme. Un homme donne de l'eau à une femme, et celle-ci va tout raconter à son père. L'histoire s'achève par un mariage. Mais il joue aussi sur l'image, chère au prophète, de la femme infidèle. Car bien évidemment, le problème de la Samaritaine, ce n'est pas le manque. Elle, c'est plutôt le trop-plein. En tout cas, au chapitre 4 de l'Évangile de Jean, la rencontre entre Jésus et cette femme ne se conclut pas par des noces. Voilà, au sujet de Jésus et de la Samaritaine, il n'est pas écrit qu'ils se marièrent, qu'ils furent heureux et qu'ils eurent beaucoup d'enfants. Non, parce que la Samaritaine, elle doit retrouver son vrai mari, tout comme l'humanité doit découvrir le véritable Dieu. Jean conclut que Jésus n'est pas l'époux. Jésus ne prend pas la place de Dieu. Il maintient une distinction entre la confiance qu'on peut placer en sa personne et la communion avec Dieu. Il est en revanche celui qui invite aux noces, là où l'on célèbre l'alliance de Dieu avec l'humanité. Dès lors, il faut considérer le rôle de Jésus dans ce processus, ce qu'il faut appeler une révélation, même si ce mot, je ne le goûte guère. Vous l'avez sans doute remarqué, ce récit est fondé sur une succession de malentendus, car tous les mots peuvent revêtir un double sens. Jésus parle d'eau vive là où la Samaritaine n'entend que de l'eau. Là où les disciples parlent de nourriture, Jésus entend, lui, la volonté de son Père. Semailles et moissons sont des réalités concrètes pour ses interlocuteurs, alors que le maître de l'Évangile y voit la description et les fruits de son ministère. Il y a un je ne sais quoi de socratique dans la démarche de Jésus, qui s'apparente à une maïeutique. Jésus est un éveilleur. Cette femme, voyez-vous, il ne lui donne pas de leçons de morale. Il ne l'exhorte pas. Il ne lui assène pas un cours de théologie. Il la fait parler. Il dialogue avec elle, sans jugement, sans a priori, sans complaisance non plus. Le dévoilement progressif de cette existence singulière, dans sa vérité, dans sa complexité, dans ses difficultés, constitue en quelque sorte le premier verset de l'entretien. Voilà une femme dont la vie affective est chaotique. Elle travaille dur, elle est complètement désocialisée. Eh bien, c'est dans l'épaisseur et dans la consistance de cette tranche de vie que pourra se jouer l'événement de Dieu, et pas ailleurs. Car Jésus est habité par la conviction que l'existence humaine ne se dévoile dans sa vérité et dans sa profondeur qu'en interaction avec la question de Dieu. C'est la profondeur de Dieu qui va donner à l'homme sa propre profondeur. C'est d'ailleurs ce que la Samaritaine pressent lorsqu'elle demande à Jésus où il faut adorer. Cette femme place la question de Dieu en son lieu adéquat, celui de l'adoration, ce qui est d'une justesse théologique saisissante. Mais en revanche, elle se trompe. Elle se trompe en croyant que l'être humain est en mesure de décider où il faut adorer Dieu. La connaissance de Dieu, en effet, n'est pas le fruit d'une quête religieuse. Elle est un don. Ce n'est pas l'homme qui trouve Dieu. C'est Dieu qui trouve l'homme en se manifestant à lui par son esprit. Et en lui disant cela, Jésus fait passer la femme à un autre niveau de compréhension de la réalité et il lui ouvre les portes de ce que Jean appelle une vie nouvelle. Adorer en esprit et en vérité, c'est en effet tout simplement faire l'expérience d'une vie où les choses et les êtres sont remis à leur place, où ce qui est tordu est redressé et où les aspirations du cœur humain sont enfin satisfaites, mais d'une manière totalement inattendue, lorsque l'on expérimente que le don de Dieu soigne, libère et accomplit. Oui, Jésus, d'une certaine manière, se comporte vis-à-vis de cette femme comme un thérapeute. Il l'écoute, il la questionne, et par ce travail, cette femme relit son histoire, fait mémoire de ses blessures, se met à l'écoute de son désir et prend conscience que du neuf et du vivant est désormais possible dans une existence qu'elle pouvait croire à jamais abîmée. En ce sens, le récit de la Samaritaine concerne chacun d'entre nous. Il est finalement un commentaire, une mise en scène de cette affirmation du Christ johannique : si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, tu es venu à nous, tu viens à nous, comme cette femme de Samarie, nous allons à toi avec nos fautes et nos échecs, avec nos rêves et nos espérances. Ta parole est vérité. Fais en nous la vérité. Amen. Nous allons chanter le cantique 222, que la moisson du monde est grande, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, le cantique 222. Je vous invite à vous lever. Donc maintenant le temps des annonces qui vont être faites par Francine Brunstein, trésorière du Conseil presbytéral.
Bonjour à tous et à chacun. Merci à Richard donc pour cette belle prédication et pour avoir pu assurer ce culte au pied levé pratiquement au dernier moment. Merci à Aurélien qui nous a accompagné à l'orgue. Merci à Fabien et au chœur qui sont aussi présents ce matin. Merci à Camille qui a essayé d'enregistrer la vidéo de la prédication. Et voilà donc quelques informations. Donc, lundi 27, donc demain soir, Greg Bitpinnick pour les progressants de 19h30 à 21h avec Aurore, en face aux 4 rues de l'Oratoire. L'initiation à la théologie chrétienne est reportée du fait de l'absence de Marc Pernaud. Mardi 28, il y a une conférence ici même dans le temple de Marie Balmarie et François Rancillac de 20h à 21h30 ici même dans le temple. Cette conférence sera présidée par Denis Guénoun et il sera question de la divine origine, livre de Marie Balmarie et de sa mise en scène par François Rancillac qui est le directeur du théâtre de l'Aquarium. Jeudi 30 novembre, le chœur de l'Oratoire répète de 19h30 à 22h avec Fabien Aubé et Alexandre Gorovitch. Vendredi 1er décembre, premier jour de la vente de l'Oratoire qui ouvre à 12h jusqu'à 19h, ici même dans le temple. Vous avez l'habitude, de nombreux comptoirs sont ouverts et à votre disposition. La brocante, les jouets, la décoration, l'artisanat, les vêtements, du linge, des collections, de l'alimentation, une sandwicherie, une crêperie, un salon de thé. Enfin, vous aurez un panel de comptoirs à votre disposition. Et le jour même, une célébration œcuménique, la journée mondiale de lutte contre le sida, de 19h30 à 21h, à l'église Saint-Eustache, à côté. Samedi 2 décembre, l'hébreu biblique de la découverte de 10h à 11h, tous les niveaux, avec le pasteur Gilles Castelnau. La vente de l'entraide se poursuit dans sa deuxième journée, de 10h à 18h. Ce 2 décembre, le repas de la vente est servi de 12h à 14h. Mais attention, le repas de la vente est sur réservation avec paiement au secrétariat dans la semaine ou à la librairie aujourd'hui même, car contrairement au repas de paroisse, on ne peut pas monter sans avoir au préalable réglé sa participation. Dimanche 3 décembre, le culte est comme toujours à 10h30 ici. Le repas paroissial sera servi à 12h salmono. Et si vous pouviez vous inscrire dès maintenant, vous savez que les organisateurs sont ravis de savoir s'il faut qu'ils préparent pour 30 ou pour 50 personnes. L'après-midi même, vous avez un concert, Bac pour l'Avent, au profit de l'entraide de l'oratoire, la fin de la vente de l'oratoire, à 14h30 ici même au temple. Bac pour célébrer les 500 ans de la réforme, avec Gilles Donneau au piano, Isabelle Hureau à la flûte, Sylvie Giugno au chant, Sarah Kim à l'orgue, Constance Luzzati à l'harpe, Marion Ignal au violoncelle. Libre participation aux frais, mais venez nombreux car tout le bénéfice de ce concert va à l'entraide. Déjà, je peux vous dire que le dimanche 10 décembre à 16h, il y aura le concert de Noël avec Sylvie Giugno soprano, Sarah Kim à l'orgue et Yannick Henry au piano et les chœurs de l'oratoire et l'orchestre de chambre von Schwitten. Le mardi 12 décembre, vous avez de l'information là-bas à l'entrée dans le cadre de Société en débat. Apocalypse du politique par Vincent Delecroix et cette réunion, mais on vous le resignalera, est à 20h aux 4 rues de l'Oratoire. À part ça, la lettre annuelle d'information financière a été envoyée à tous les membres dont on avait les adresses dans notre fichier. Cette lettre a été envoyée par Internet à toutes les familles qui avaient des adresses Internet et par courrier aux autres. Tous ceux qui veulent avoir une édition papier et qui ne l'ont pas reçue peuvent la prendre au stand là-bas, à côté des stylos, à côté du stand Mono. J'ai eu plusieurs demandes d'inscription pour être membre électeur de la paroisse, de la Pérole. Car contrairement à d'autres paroisses, il ne suffit pas d'être membre donateur pour être inscrit sur les listes et être membre électeur. Nous avons donc, comme d'habitude, vous avez des fiches d'inscription, des demandes d'inscription à l'entrée. Toute demande qui sera reçue avant la fin de l'année vous permettra d'être inscrit et de venir voter ou de prendre la parole lors de l'assemblée qui aura lieu le 25 mars prochain. Même si vous me les remettez au début janvier, mais il faudrait qu'elles soient datées absolument avant la fin d'année 2017. Voilà pour des annonces. Si vous cherchez des idées de cadeaux, vous avez au stand librairie le dernier livre qui vient de sortir, illustré par Karine Bouvatier et le texte de Philippe Casadesus, et sur les diaconesses de Reuilly. C'est un très beau livre avec des belles photos et un texte très, très instructif. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Bon dimanche à tous.
La prise de parole de notre trésorière m'invite à saluer la présence parmi nous du trésorier régional de la région centrale Peronne, puisque les trésoriers régionaux étaient en séance de travail hier pour faire le point sur les problèmes financiers de notre Église. Et toutes ces questions me permettent de ne pas oublier de vous dire que c'est maintenant le temps de la collecte. Par avance, merci.
Louons l'Éternel. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est notre joie de te célébrer pour l'Esprit qui nous souffle ton nom et qui illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec ses disciples. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons sa venue. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Comme Jésus l'a enseigné, nous te disons maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En tout temps et en tout lieu, l'Église est la servante du Seigneur. C'est pourquoi elle invite à s'approcher de cette table tous ceux, quelle que soit leur appartenance ou leur non-appartenance, qui ont entendu l'appel de Jésus et qui, dans leur cœur, répondent « oui ». Ce pain que nous rompons est communion au corps du Christ. Et cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de Jésus-Christ. Venez maintenant, tout est prêt. Allez dans la paix de Dieu. Allez, la joie du Seigneur est votre rempart. Allez dans la paix et dans la joie. Allez dans la paix de Dieu.
Père, nous te remercions pour ce repas que nous venons de partager. Fais que nous vivions de la nourriture qui est de faire ta volonté. Fais que nous te célébrions toujours avec joie et qu'ainsi nous soyons témoins de Jésus-Christ. Nous n'oublions pas ceux qui souffrent, les victimes de l'injustice, ceux qui ont faim, ceux qui ont froid, ceux qui pleurent sans consolation, ceux qui ont la conscience chargée et qui ne trouvent pas de pardon, ceux qui te cherchent. À eux, à nous, donne ta paix et fais-nous le don d'être auprès d'eux les témoins de ton amour. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu seul peut donner la foi, mais toi tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais toi tu peux rendre confiance à tes frères et à tes sœurs. Dieu est le chemin, toi tu peux l'indiquer aux autres. Alors poursuivons notre route avec Jésus, le Christ. Soyons enracinés en lui, affermis par son esprit. Que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous garde. Allez et demeurez dans la paix de Dieu. Amen.
un accueil.